Le dollar américain va-t-il dominer toute l'année 2024 sur le marché des changes? Alors, chers amis, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex. Je suis ravi de vous retrouver pour parler de lui, le billet vert, le greenback, le dollar US qui, contre toute attente, oui, reprenez les anticipations de politique monétaire du mois de décembre, début janvier, juste après Noël, jusqu'après, la fête du Nouvel An. Le marché attendait 7 baisses de taux de la Fed. Le marché était convaincu que la Fed serait la première banque centrale occidentale à faire son fameux pivot. Sauf que depuis, c'est la Banque nationale suisse qui a commencé d'ailleurs. Et devrait suivre bientôt la Banque centrale européenne. Et devrait suivre la Banque centrale du Canada. Et voilà que depuis le début de l'année, ce dollar que l'on pensait voir poursuivre sa tendance baissière de fin d'année 2023, ce dollar nous fait un méga pump sur le marché d'échange dit flottant, de son petit nom, le Forex. Les devises dites majeures, elles sont toutes en baisse depuis janvier. Toutes en baisse depuis janvier, sauf le dollar US. Donc, il est leader. Le dollar US, il est leader. Cette place de leader est-elle provisoire? C'est-à-dire que le scénario envisagé en janvier est-il simplement reporté à la seconde partie d'année, j'entends par là au second semestre, ou est-il définitivement annulé sur cette année et reporté à 2025? Et encore pour certains, il n'aurait jamais lieu avec un dollar qui irait tout en haut et un euro-dollar qui irait à la parité. Croyez-vous en ce scénario? Croyez-vous vraiment en un euro-dollar à la parité? Moi, à titre personnel, je n'y crois pas. Et je vais donc vous parler de tout ça. Voilà, chers amis, donc c'est parti. Le dollar US va-t-il conserver sa place de leader tout au long de l'année? De quoi va être faite cette vidéo? Elle sera faite de bonne humeur, de positivisme, car le mois de mai arrive et que l'hiver tardif sera bientôt terminé. Alors, au passage, chers amis, je marque une pause. La semaine prochaine, je marque une petite pause pour reposer mon esprit fatigué par ces mouvements de marché et revenir en forme et vous retrouver la semaine du lundi 6 mai. Donc, petite parenthèse, je vous confie le marché. Traitez bien ce petit dollar, traitez bien le S&P 500, traitez bien le cours du Bitcoin, les matières premières. Je vous laisse vous en occuper et j'espère retrouver le marché dans un bon état le lundi 6 mai. Alors c'est parti, chers amis, donc on attaque. Le plan est sous vos yeux. Quatre parties. Le dollar US leader cette année. Pourquoi? Bon, tout le monde le sait, mais on va quand même faire un petit rappel. Les taux du marché et les spreads d'auto. This is the key. Tout est là. Donc si vous vous posez la question, parce que c'est quand même la question de la vidéo. Il faut bien qu'il y ait un intérêt, il faut bien qu'il y ait un développement, une introduction, un développement, une conclusion. Et donc, des arguments qui viennent construire cette dissertation théâtrale. Eh bien, le dollar va-t-il, je vous donne la réponse, comme ça vous pouvez partir faire autre chose de plus intéressant. Le dollar va-t-il être leader toute l'année? La réponse à cette question est, les taux d'intérêt du marché, les spreads de taux vont-ils continuer de remonter? Si c'est le cas, oui, dollar sera leader toute l'année. Si ce n'est pas le cas, non. Dollar ne sera pas leader toute l'année. Et derrière cette question des taux d'intérêt du marché et des spreads de taux se pose la question de la désinflation US qui a été mise en pause. Cette pause est-elle provisoire avant de reprendre la direction du sud, ou cette pause est-elle un plateau avant de filer vers le nord? Vers le nord, le dollar sera leader. Vers le sud, le dollar sera bientôt, eh bien, dans le rouge. Voilà, mes amis, la vidéo est terminée. Allez. Donc maintenant, un peu de détails. Pour ceux qui veulent quand même rester, un peu de détails, des illustrations, de l'analyse technique, plein de choses, les raisons de la domination du dollar US au premier semestre 2025. Alors, écoutez, guys, le dollar US, il est leader sur le marché d'échange face à un panier de devises. Le dollar US est la seule devise majeure FX en hausse. Ah, je vais me lire, tiens, cette fois-ci, je me lis. On va voir si j'écris bien. Le dollar US est la seule devise du FX en hausse cette année. Et la position institutionnelle nette du taux euro-dollar continue de reculer. Oui, c'est vrai, je n'ai pas dit de bêtises, puisque vous avez ici sur TradingView la performance des devises majeures du Forex. En cette bonne année 2024, qui fait que j'aurai 42 ans au mois de novembre prochain et que le temps passe vite, eh bien, quelle est la ligne de zéro est là ? Là, vous avez le code des devises dites majeures, hein, parce que le monde change, mais ce sont les devises du G7, quoi, en gros. Bon, enfin, pas exactement, mais presque. Bon, bien, tout est sous zéro, sauf le DXY, qui est le code du dollar US face à un panier de devises majeures. Et vous avez la position institutionnelle, nette ici, le dollar, c'est une synthèse de ce qu'on font les asset managers sur les contrats à terme face dollar face à toutes les devises, c'est largement dans le vert. Et d'ailleurs, vous avez même la position nette institutionnelle des asset managers sur le taux euro-dollar, les contrats futurs, qui continue sa tendance baissière. D'ailleurs, on peut faire l'analyse technique. Moi, je rappelle-vous, je vous avais montré ici l'épaule tête-épaule, le pullback. Donc, c'est, on peut même faire de l'analyse technique sur la position institutionnelle nette. Alors, les raisons de cette domination du dollar relèvent de la divergence des politiques monétaires parce que, en début d'année, le marché était dans un rêve. Je vous remontre le rêve de début d'année. Le rêve de début d'année voyait 7 baisses de taux de la Fed. Maintenant, c'est 1. Et autant vous dire que maintenant, c'est 1. En fait, c'est quasi 0, puisque si vous reprenez les toutes dernières anticipations de politique monétaire de la Fed, eh bien, voilà, c'est même quasiment improbable qu'on ait une première baisse de taux en septembre. Alors tout ça, vous savez, tout ça change extrêmement vite. Vous avez par exemple ce vendredi la mise à jour de l'indice des prix PCE, qui est la jauge favorite de la Fed. Il suffit qu'il y ait une bonne nouvelle et tout ça va changer très vite. On pourrait remonter à 3 ou 4 baisses de taux. En mars, faut pas attendre grand chose. Encore une fois, moi, je pense que là, ça va être encore un peu touchy, cette inflation PCE de vendredi. Mais tous les indicateurs avancés d'inflation sur avril, mai, juin restent optimistes. Sauf embrasement général du Moyen-Orient et un pétrole à 100 dollars. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est le risque pour la partie nominale de l'inflation. Bon, pour l'instant, ça a l'air de rester sous contrôle. Mais c'est vrai que ça reste... Bon, ça, c'est l'épée de Damoclès, hein, pour reprendre une expression que j'aime bien. En tout cas... N'ayez pas non plus trop d'espoir, enfin, sur cette inflation PCE de vendredi, même si, globalement, elle est attendue encore en baisse, hein, notamment dans la version sous-jacente. Alors, première explication de cette force du dollar américain face à un panier de devises, c'est l'étonnante résilience de l'économie américaine. Vous avez là la toute dernière infographie qui a été proposé par le Fonds monétaire international. Vous pouvez comparer donc en bleu foncé les États-Unis, en bleu clair la zone euro et les autres pays avancés. Vous avez les révisions de la croissance du PIB réel mondial. Regardez comme ça a été révisé en hausse pour les États-Unis, alors que les autres économies développées et la zone euro, c'est de la révision en baisse. Donc encore une fois, la force du dollar face aux autres monnaies, tout est relatif. C'est parce que il y a une surchauffe non prévue, non attendue de l'économie américaine, alors que en Europe et dans les autres économies développées, la croissance est atone. Donc c'est avant tout quelque chose d'extrêmement relatif. Et si vous prenez les perspectives de la croissance économique mondiale, vous voyez parfaitement la différence entre les États-Unis et la zone euro. Vous avez eu pour les États-Unis une révision hausse, la zone euro non, le Japon non. Bon, il y a vraiment que les States. Donc il y a déjà une réalité macroéconomique. À cela s'ajoute une désinflation qui est mise en doute et une résilience du marché du travail. Certains ajoutent même le rôle de valeur refuge du dollar américain en cas de risque géopolitique systémique. Mais encore une fois, oui, effectivement, le rôle de valeur refuge du dollar US en cas de risque géopolitique systémique. Mais moi, je pense que là, l'essentiel de la hausse du dollar US depuis le début de l'année, je vous l'ai montré en pourcentage, mais je peux vous le remontrer sous la forme d'un graphique. Voilà, le dollar a commencé l'année là. Donc, il y a eu cette phase de baisse de septembre-octobre où tout le monde pensait, moi le premier, que cette fois-ci on allait casser ce niveau et faire enfin la vaccée. Et finalement, depuis le début d'année, il ne fait que de remonter à cause de cette divergence macroéconomique, à cause de cette divergence dans le rythme de la désinflation, à cause de cette divergence du coup qui en découle, divergence de politique monétaire. Maintenant, voilà, Moi, j'ai toujours moi, mon scénario d'une vague C simplement reportée. Et en fait, on construit la vague B. Et ça, j'y viens, c'est dans la partie technique qui arrivera un peu plus tard. Les taux d'intérêt du marché et les spreads de taux sont la clé de la force du dollar américain. Car oui, au-delà de tout ça, au-delà de cette divergence macroéconomique, au-delà de cette divergence dans le rythme de la désinflation, au-delà du rôle safe haven du dollar US en risque géopolitique, au-delà de la divergence des politiques monétaires, au-delà de tous ces termes qui font paraître intelligents alors qu'on ne l'est pas, moi le premier, simplement, qu'est-ce qui attire du cash? Qu'est-ce qui attire des capitaux sur le dollar? N'oubliez pas, les tendances, derrière des tendances, il y a des flux de capitaux. Mais vous le constatez vous-même dans votre quotidien. Les placements monétaires, les placements obligataires, l'investissement en actions, ce sont ça, les déplacements de capitaux. Je veux dire, là, la part du cash est actuellement très importante. Et il y a une grosse partie des fonds institutionnels qui sont sur les placements monétaires, bah parce que ça paye du 5%. C'est sans risque, le placement monétaire. Le taux d'intérêt à 3 mois US, il est à 5. Il n'y a aucun équivalent dans les autres économies développées. Quelle a été... Alors, il y a la tendance du marché action. Les Magnificent Seven, ils sont aux States. Ils sont pas en France ou en Allemagne. Même s'il y a quand même des titres qui font des nouveaux records historiques. Mais les Magnificent Seven, c'est incroyable. Donc, à un moment ou à un autre, si on veut être exposé aux Magnificent Seven, c'est peut-être un peu tard, là. Bon, mais ceux qui ont voulu l'être. Si on veut être exposé au placement monétaire du marché des États-Unis en dollars, les placements monétaires en dollars, qui rapportent plus, même les obligations américaines rapportent plus que les obligations européennes. Tout ça attire des capitaux sur le dollar US. Donc, voilà, c'est avant tout une divergence des taux d'intérêt. Et donc, j'entends par là que le dollar US va-t-il être leader sur l'ensemble de l'année 2024? Nous avons vu que la première explication de la force du dollar US cette année est qu'il offre un taux de rendement très élevé par rapport aux monnaies des autres économies développées. Je peux comparer différents types de taux, on va faire simple, on va simplement comparer les taux des banques centrales. Voilà, c'est celui de la Fed qui est encore tout en haut à 5,5. Ceux des autres banques centrales majeures ne sont pas très loin finalement, mais les anticipations sont à des premières baisses, que ce soit la Banque centrale du Canada, que ce soit la zone euro, les anticipations sont à des baisses de taux. Sauf au Japon où là on a eu une hausse de taux. Ou d'ailleurs, alors, si vous prenez le consensus, mais je vais en dire un mot tout à l'heure de l'USD Yen, mais selon Bloomberg, la prochaine hausse de taux de la Banque centrale du Japon, qui la ferait passer cette fois-ci à plus 0,1, elle est attendue soit sur septembre, soit sur octobre, en termes de probabilité. Alors, effectivement, ça ne fait pas baisser l'USD Yen. Moi, ma stratégie sur l'USD Yen a été invalidée. Hein. Je fais pas l'autruche, je l'assume. Mais je vais d'ailleurs, en dernière partie, vous refaire un point technique sur euro-dollar, USD Yen et le DXY. Il y a donc clairement une double corrélation positive. La première corrélation positive est entre le dollar US et les taux d'intérêt du marché américain. C'est la base, dollar US et rates. Vous avez ici la superposition du dollar américain face à un panier de devises en noir et le taux d'intérêt US à 10 ans. La corrélation, elle est visuelle. Elle est certes mathématique, mais elle est visuelle pour ceux qui n'aiment pas les maths. Donc en gros, à la question de savoir est-ce que le dollar US va rester leader, l'autre question, la question centrale, c'est est-ce que les taux du marché américain vont continuer leur reprise? Et là, donc, c'est l'analyse technique du taux obligataire américain à 10 ans. Je vous ai déjà fait un point complet dans le Top Gun et je vous ai notamment expliqué qu'en données hebdomadaires, on pouvait toujours avoir encore ce scénario d'une vague B qui retrace profondément la A, mais qu'en réalité... Moi qui croise les différents outils d'analyse technique, tant qu'on ne casse pas le nuage hebdomadaire ici du système Ichimoku sur le dollar US, tant que ce nuage, c'est un signal qui marche dans les deux sens et qui est sans appel, c'est le vrai signal technique bearish, et lorsqu'on cassera ce nuage hebdo sur le 10 ans américain. Et c'est vrai que pour l'instant, ça ne vient pas. Et pour que cela vienne, il faut des bonnes nouvelles sur l'inflation PCE. Est-ce que ce sera le cas pour mars? Pas certain. Je pense plutôt sur avril-mai. Voilà, mais en tout cas, là, on est encore dans la zone de retracement, 61,8, 66,6 de retracement de cette première jambe. Donc, ça tient encore la route, hein, ça peut encore tenir la route. Bon, certains pensent qu'on ira à 5%. Là, si le 10 ans US remonte à 5%, vous avez la certitude que le dollar US remontera, lui, vers les 108, 109 points. Mais ce n'est pas acquis, et tout ça va dépendre des fondamentaux. Donc, la deuxième corrélation positive, la seconde corrélation positive, existe entre les spreads de taux face aux autres monnaies des pays dits développés, j'insiste sur le dit, et la tendance du dollar US, car sur le Forex, tout est relatif. Il y a effectivement la remontée des taux US, mais il y a la remontée relative par rapport aux autres monnaies. Et là, regardez, c'est extrêmement explicite. Vous avez sur ce graphique, en bleu, le dollar américain face à un panier de devises. C'est lui qui nous intéresse dans cette vidéo. Et vous avez ici le spread de taux face aux monnaies, face au taux d'intérêt des autres pays dits développés. Par exemple, vous vous posez la question, pourquoi l'USD-CHF est en rebond depuis le début de l'année? Mais regardez le spread par rapport à la Suisse. Le taux US à 2 ans, moins le taux suisse à 2 ans, qui est à 4%, donc il y a 4 points de pourcentage de rendement supérieur à être investi en USD plutôt qu'en francs suisses, sur les placements monétaires. Et en plus de ça, la tendance du spread est positive. Donc il y a à la fois la valeur absolue du spread, et c'est partout positif, que vous compariez le taux US au taux canadien, le taux US au taux australien, le taux US au taux allemand pour la zone euro, le taux US au taux suisse, le taux US au taux japonais, partout c'est au-dessus de zéro. Mais vous avez aussi la tendance, et c'est la tendance qui compte. Donc, tant que vous avez une tendance haussière sur les spreads de taux, vous aurez une tendance haussière sur le dollar américain face à la devise, et inversement. Et inversement. My dear fellows. Donc, this is the key. Par conséquent, le dollar américain restera leader du Forex, aussi longtemps que les dieux de la bourse le souhaiteront, mais surtout aussi longtemps que les taux seront en reprise haussière et que les spreads de taux seront en hausse. Et si maintenant nous mouillons un peu la chemise et que nous parlions du point de vue de mon analyse technique avant tout, car ce n'est pas le point de vue de l'analyse technique, car je peux me planter, vous le savez, et moi ici je ne dis pas, comme beaucoup de monde, j'ai raison à 110%, à 90%, I am the best, je suis le chef, je suis expert du monde, expert mondial, non, moi je suis humble. Et donc, où en sommes-nous? Alors, moi, j'ai toujours, alors même si je suis humble, j'aime bien avoir quand même un scénario. Moi, je vous propose, vous le savez, depuis plus d'un an, ça. Donc, j'ai eu raison, et là, ai-je encore raison? C'est la question. Moi, c'est ce que je propose sur l'ensemble de, pour fin 2024, début 2025. Maintenant, clairement, ici, c'est pas la vaccée qui a commencé. Sauf si vraiment on a fait la 1 de la C, la 2. On serait plutôt encore dans la B. La B, elle peut avoir plusieurs formes. Hein, ça peut être, elle peut avoir la forme ici d'une structure en flat, dans un cas baissier, d'une structure en flat. Elle peut avoir la forme d'une structure en zigzag. Partons du principe, alors, bon, que ça ressemble encore plus ou moins à un flat. On pourrait avoir eu ici une vague A, une vague B. Et donc, nous serions dans la C de la B. Alors, cette vague B peut retracer, 50%, 61,8 de la A, ça c'est les zigzags, hein, rappelez-vous, cette structure ici en zigzag, alors là, c'est une tendance baissière, donc c'est la zigzag formation, mais en inversé, voilà, donc là c'est parfait, donc c'est exactement la zigzag formation que vous avez, puisque nous sommes dans cette structure, après avoir eu les 5 temps de hausse. Voilà, donc cette vague B, ça peut aller jusqu'à 61,8 de la A, sinon après c'est pas une zigzag formation. Donc le 61,8 est ici, si là je fais un A égale C, j'ai mis une extension de Fibo pour avoir une A égale à la vague C, ça donne cette zone-là. Donc, mon scénario tiendrait la route jusqu'à cette zone. Au-delà, clairement, bah non, mon scénario ne serait plus le bon. Donc, c'est tout ça que je surveille. En données hebdomadaires, en Ishimoku, regardez, on teste le nuage là, donc c'est quand même quelque chose qui va être important à suivre. Mais au final, ça s'est mis un peu en neutralité. Et maintenant, en données journalières, bon, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, ça reste bullish. Voilà, ce qui serait un signal de redémarrage de la baisse, et donc en fait une vague B qui serait finie. Et donc là, si en fait, si on recasse les 105 points, ça repart direct au sud. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'on serait déjà dans la C, et qu'on aurait fait la 1 de la C, la 2 de la C. Voilà, donc ça reste encore, ce sont les hypothèses qui sont encore sur la table. Et si maintenant nous parlions un peu euro-dollar et USD-yen, là aussi, sans faire l'autruche. Alors, je vais essayer d'être précis sur le cours de l'euro-dollar. Alors, les hypothèses. Hypothèse 1, on a fait la vague 1 ici, et nous serions en train de faire la vague 2 en ABC. Donc, pareil, en ABC, structure en zigzag classique. Et dans ces cas-là, ça nous envoie à 1,0340. Ce niveau, avant de repartir à la hausse. Autre hypothèse, on a déjà fini la vague 2 ici. Et donc là, on aurait fait la 1 de la 2 et la 2 de la 2. Parce que là aussi, on voit aussi une structure en zigzag. Et là, pour cela, il faudrait tenir les 1,0630. Donc en gros, pour l'eurodoll, le marché arrive à tenir les 1,0630. C'est bien, boum, ça repart, on monte à un 10. On casse 1,0630. C'est le drop minimum à 1,0480 et même 1,0340. Et là, ça va vraiment se jouer sur les data US. Donc ça, c'est l'alternative pour le cours de l'euro-dollar. En même temps, l'USD-Yen. Bon, l'USD-Yen, mon scénario est invalidé. Voilà, je le dis, je ne me cache pas. Le breakout des 152 yens a été invalidé. Vous savez que il y a un... Je ne veux pas faire de la contre-tendance, j'admets, il y a eu un cassure de résistance, très bien, ça continue. Le niveau des positions short sur le yen est à un niveau historiquement élevé. Il y a bien sûr la dimension US, pivot de la Fed. Il y a aussi la dimension Japon, où on attend une seconde hausse de taux de la BOJ au second semestre. Bon. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du côté du yen. Ça reste une paire en USD. Et donc, attention, dès lors un jour qu'il y aura un chiffre défavorable au dollar US, attention au retour de bâton du fait de ces énormes positions short sur le yen. Et donc, une longue USD qui pourrait être débouclée violemment. Pour l'instant, c'est pas le cas, je l'admets, et moi je me suis planté. J'ai été invalidé au dépassement des 152 yens. Simplement, attention, lorsqu'un trade est dit « crowded », c'est-à-dire que tout le monde est full long USD yen à 100%. C'est que le réservoir est rempli à ras-bord. Et donc, la moindre mauvaise nouvelle en faveur de l'USD peut créer un gros drop sur l'USDN. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ce qui serait un signal technique baissier, ce serait de réintégrer les 152. Si un jour le marché recasse les 152, là, on ira minimum à 146 et même à 140. Donc, voilà. Mais moi, m'ayant été fait invalider ici, eh bien, j'admets cette tendance haussière, et pour repasser baissier, il faut recasser à la baisse les 152 yens et venir invalider ici ce breakout. Bien invalider ce breakout. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, toujours avec vous. Je prends donc quelques jours de repos, et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour le Top Gun le lundi 6 mai, et pour le Fast and Forex, le mardi 8 mai, n'oubliez pas, je vous confie le marché, j'espère le retrouver en bon état. Merci à tous.